franceinter.fr.
C'était vendredi soir, les 28 ministres de l'Environnement de l'Union européenne présentaient leurs objectifs en vue de la COP21. C'est à la une de la science aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'Union européenne a adopté un mandat fort et responsable en vue de la conférence sur le climat de Paris. Cela montre notre vision pour le nouvel accord climatique.
Nous sommes unis, c'est ce qui est le plus important. Et nous sommes prêts, ce que notre présidente a très bien dit, à conclure un accord climatique mondial ambitieux, vaste et contraignant. Rien de moins.
Et c'était la ministre de l'Environnement luxembourgeoise et le commissaire européen chargé au climat vendredi lors d'une conférence de presse. 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, zéro CO2 d'ici 2100. Voilà ce que défendra l'Europe. C'est ambitieux à la table des négociations pour la COP21. Bonjour Avec Kempf.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste spécialisé environnement pour le site Reporter. Et par téléphone, nous sommes avec Célia Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des politiques européennes pour le réseau Action Climat France. Hervé Kempf, 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030. Franchement, vous pensez que l'Europe est capable de tenir cet objectif ?
Oui, tout à fait. C'est un objectif qui ne date pas de vendredi, était déjà acté depuis un an en octobre. C'est le paquet énergie-climat pour 2030. C'est la suite du premier pas qui avait été pris il y a quelques années, qui était le paquet énergie-climat 2020, et où l'Union européenne s'était engagée collectivement à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Et on en est déjà à 19%. Donc on est sur le chemin et cet objectif de 40% de réduction des gaz à effet de serre
c'est tenable pour vous
paraît tout à fait tenable. Je pense que tous les spécialistes et les experts en sont d'accord. Et il y a même un certain nombre de personnes, peut-être Célia Gauthier le dira, je ne sais pas, qui estiment que l'Union européenne aurait pu aller plus loin parce que l'objectif qui a été rappelé d'ailleurs dans le communiqué du Conseil de l'Union européenne dit qu'il faut réduire de 80% en 2050 et certains disent qu'entre 2030 et 2050, on laisse trop de chemin à parcourir.
Oui, Célia Gauthier, justement, pour vous, c'est insatisfaisant.
Effectivement, si on regarde le potentiel de développement des énergies renouvelables en Europe, et notamment les économies d'énergie qu'il serait possible de réaliser, tout ça évidemment étant très utile pour l'Europe puisqu'elle ne produit pas d'énergie, elle importe massivement des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon d'ailleurs, eh bien aller plus loin sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie, ça aurait été possible et donc cela aurait permis d'aller encore plus loin sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc si vous voulez, cet accord européen sur le 40% qui date de fin 2014 est un minimum. Et c'est aussi le résultat d'un compromis politique, puisque au sein de l'Union européenne et des 28 États membres, il y a des États qui ont déjà commencé leur transition énergétique, comme les pays scandinaves, l'Allemagne, en France, on en est encore au tout début, et puis des États qui sont très dépendants des énergies sales, comme le charbon, comme la Pologne notamment, et évidemment, faute d'accord pour l'ambition, on tombe sur un compromis qui est relativement modeste, mais comparable à ce que d'autres grands pays industrialisés ont proposé pour la conférence de Paris, comme les États-Unis ou d'autres. Et résultat, avec ce que proposent tous les pays riches aujourd'hui, on se dirige vers un réchauffement d'environ 3 degrés par rapport à avant la période pré-industrielle, avant la période industrielle, pardon. Et 3 degrés, c'est au-dessous de ce que les scientifiques nous disent qu'il faudrait faire, c'est-à-dire au maximum 2 degrés de réchauffement pour éviter des conséquences climatiques catastrophiques.
Et en 2100, le CO2 aura totalement disparu avec EMF ?
Non, parce que vous savez que le CO2, le dioxyde de carbone, a une durée de rémanence dans l'atmosphère qui est très longue, qui est de l'ordre d'une centaine d'années. Mais on peut espérer, c'est l'objectif, que les émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre seront revenus à zéro en 2100. Si vous me donnez un instant pour bien comprendre le caractère relativement insatisfaisant de l'Union européenne, comme vient de le rappeler Célia Gauthier, il faut comparer aussi que l'Union européenne se dit « mais que font les autres grands blocs ?» Les États-Unis notamment, et la Chine. Or, les États-Unis, il faut le préciser, n'ont pas un objectif aussi ambitieux que celui de l'Union européenne. Ils se sont fixés 28% de réduction en 2025, mais par rapport à 2005. Alors que l'objectif européen est par rapport à 1990. Autrement dit, l'effort des États-Unis est beaucoup plus faible que celui de l'Union européenne. Et beaucoup de gens, des États et des grandes entreprises au sein de l'Union européenne disent « si vous nous mettez des contraintes trop fortes, il faut que ce soit aussi le cas chez nos principaux partenaires économiques.
Malgré les messages d'Obama laissant penser que les États-Unis allaient faire beaucoup d'efforts. Hein,
ils font, il a fait un petit effort supplémentaire dans un plan qu'il a dévoilé le 3 août précisément, ouais, où il progresse de 2% par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. Mais le contexte politique aux États-Unis est très difficile et à la différence de l'Union européenne où il n'y a pas de débat véritable sur la nécessité d'aller dans un effort, aux États-Unis, il y a toujours notamment du côté des républicains, du parti républicain et de Donald Trump par exemple, un climato-scepticisme qui est toujours très prégnant au niveau politique.
Avec un pays qui est le plus gros émetteur de CO2 au
qui
monde.
Reste le deuxième plus gros émetteur après la Chine.
Ouais. C'est lié, oui, Gauthier. Il y a un autre point clé.
Le problème aux États-Unis, si vous me le permettez, c'est que les États-Unis n'ont rien fait pendant des décennies. L'Europe a commencé déjà à mettre en place des politiques publiques pour aller vers des énergies renouvelables, notamment. Aux États-Unis, il ne s'est rien passé pendant des années et pourtant ils ont continué à polluer. Donc leur responsabilité aujourd'hui dans les changements climatiques est très importante. Donc même si Obama essaie d'accélérer un petit peu les choses, ça ne suffit pas par rapport à leur responsabilité historique. Et la responsabilité historique, c'est un point important de la négociation internationale qui va mener jusqu'à la conférence de Paris. Et donc, il faudrait que les États-Unis, mais aussi les autres grands pays émetteurs, on peut citer aussi le Canada et l'Australie, le Japon, qui sont de très mauvais élèves, fassent plus et montrent plus d'ouverture pour assumer leurs responsabilités.
Allez, une dernière question pour Hervé Kempf.
Hervé Kempf, il y a un autre point important à venir de cette conférence de Paris, c'est le soutien financier apporté aux pays pauvres pour enclencher une transition énergétique. Est-ce que l'Europe s'est mise d'accord sur ce sujet?
Elle s'est mise d'accord sur l'intention, ce qui est très bien. Elle s'est dit il faut arriver à un accord. Dans quel contexte? Dans un contexte qui a été décidé internationalement à la conférence des Nations Unies de Copenhague en 2009 et qui disait à partir de 2020, les pays riches alloueront, donneront, prêteront 100 milliards de dollars chaque année pour aider les pays pauvres à faire face aux conséquences du changement climatique. Pour l'instant, on en est loin et même l'Europe qui a signifié cette intention n'arrive pas à se mettre d'accord sur un instrument qui serait sans doute l'instrument essentiel pour arriver à cet objectif financier d'aide aux pays pauvres, qui est la taxe sur les transactions financières. Pour l'instant, on n'en est pas du tout à la mettre en œuvre, ni même à la décider de son principe et de son contenu.
Vous êtes sur le pont avec reporter Hervé Kempf, j'imagine.
C'est le quotidien de l'écologie, évidemment, a toujours eu le climat dans son ADN et on travaille énormément.
Vous
et
avez beaucoup de boulot.
Absolument.
Reporter.fr pour ceux qui souhaitent vous suivre. Et puis Célia Gauthier, le réseau Action Climat. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés à la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bonne nouvelle pour commencer, puisque la planète Mercure ne va pas nous tomber sur la tête. C'était pourtant le scénario probable qu'avaient prédit les scientifiques il y a quelques années. Mais de nouvelles simulations réalisées par l'université d'Hawaï montrent que nous devrions éviter la catastrophe. Selon les premières théories, Mercure devait être attiré par la gravité de Jupiter, puis s'écraser sur la Terre d'ici 5 milliards d'années. Sur 1600 simulations de l'avenir du système solaire, aucune ne montre ce scénario catastrophe. L'orbite de notre planète devrait être stable quant à elle pendant encore plusieurs milliards d'années. L'Australie pourrait-elle interdire la pratique de la boxe après le décès il y a quelques jours d'un jeune boxeur des suites d'un chaos? Une association australienne de médecins a réclamé l'interdiction pure et simple de ce sport de combat. Selon le docteur Stephen Parnis, la pratique de la boxe entraîne des lésions cérébrales irréversibles, pouvant parfois entraîner la mort. Et puis on ne les pensait pas capables d'émettre des sons, et pourtant les girafes fredonnent. Dans une étude publiée dans le journal Biomed, des chercheurs ont analysé pendant 7 mois le comportement des girafes à Camelopardalis. Jusqu'ici, on pensait que les girafes ne pouvaient pas générer assez d'air à travers leur long cou pour émettre des vocalisations. Mais après l'analyse de 947 heures d'enregistrement dans 3 zoos d'Europe, il semblerait que les girafes se mettent à bavarder discrètement dès la nuit tombée. Voici donc en exclusivité, tendez bien les oreilles dans la tête au carré, le fredonnement de la girafe. Attention, ça ne dure que quelques secondes. Voilà, c'était donc le son de la girafe enregistré pour la toute première fois. Et c'était dans l'actualité scientifique de cette semaine.